Salut les marques et salut les smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch tous les jours de l'année, même pendant les fêtes. C'est la période de Noël, joyeux Noël à toutes et à tous, et vous avez un magnifique cadeau, vous m'avez peut-être reconnu. Je suis Raphaël, je suis l'ange de Noël et je suis de retour. Voilà, enfin après des mois loin de votre antenne, et Dieu sait, je ne sais pas si je vous ai manqué, mais vous m'avez manqué. Ça c'est une belle promo de Babyface, mais me revoici sur les ondes. Et pour ce SmackDown du 24 décembre, je suis avec Géliel, notre petit lutin de Noël. Comment ça va, Géliel ?
Salut Raphaël, ça va bien. Et puis j'en profite, je me joins à toi. Joyeux Noël à tous et c'est de bonnes fêtes à tout le monde.
Ouais, voilà, j'espère que tout le monde a passé de bonnes fêtes, va en passer encore. Et puis, que tout le monde est dans le joyeux esprit.
La magie de Noël.
Voilà, exactement, la magie de Noël. Alors, pour ce Friday Night SmackDown qui tombait pile le soir du 24 décembre, malheureusement, première impression, je ne sais pas si tu partageras mon avis, mais c'était donc un SmackDown évidemment pas en live, enregistré il y a quelques jours. Donc, nous avons eu le retour de ce cadeau de Noël que l'on n'est pas sûr d'apprécier, l'éditeur de son. Et ça s'est bien fait remarquer, hein, non, quand même
Carrément. Et il nous avait pas manqué, lui, pour le coup, ouais. Contrairement à toi. Et du coup, on a bien senti qu'il était revenu aussi, quoi. Plein de moments dans le show où ça donnait une ambiance vraiment bizarre et à nouveau artificielle, comme on avait connu pendant le confinement, là, pendant le Covid, pendant le plutôt Covidomania.
Ouais.
Et on, voilà, ça nous manquait pas.
Eh ben oui, dans la review de Raw de cette semaine, notre tonton Chris nous portait des mauvaises nouvelles en nous disant que la pandémie risquait de faire revenir le Thunderdome aux États-Unis. Là, on a eu une sorte d'avant-goût et c'est sûr que ça ne nous donne pas envie. Non, il y avait toujours ce bourdonnement permanent qui a rendu quasiment impossible l'analyse des différentes popularités des uns et des autres. Hein. C'est juste que l'ingénieur son était là, aux manettes, aux boutons.
Ah, et puis même il avait hâte de s'y remettre, on a l'impression, parce que vraiment, il a tout lâché, quoi.
Ah bah ça, il n'est pas si souvent dispo, alors là, hop, il appuie sur tous les boutons en même temps, je pense, et ça doit faire des jolies couleurs sur son écran. Bon, pour la première séquence, on n'est pas trop dans l'ambiance fête de Noël, hein, parce qu'on s'est retrouvé carrément en backstage, mais alors dans une backstage des plus tristes et sinistres, dans l'obscurité quasiment, avec Paul Heyman, qui est en interview avec Kayla Braxton. Il fallait continuer ce fameux duo. Paul Heyman, on l'a déjà vu comme ça, hein, mais Paul Heyman, il s'est fait virer la semaine dernière, on se souvient, par Roman Reigns, qui l'a envoyé dans ses pénates. Et Paul Heyman, il est mal rasé, il a les yeux tout rougis. C'est un homme qui s'est fait larguer, quoi. Hein. C'est un peu ça qui nous raconte. Hein. Et en plus, Kayla Braxton ramène un petit peu, rajoute le couteau dans la plaie là, en lui disant que tout ça s'est passé publiquement. Et ça lui fait beaucoup de mal à Paul Heyman. Il dit qu'en gros, il a été viré parce qu'il a dit la vérité, tout simplement. Il a dit une vérité que Roman Reigns n'était pas prêt à entendre, cette vérité. C'était donc que Paul Heyman faisait tout pour protéger Roman Reigns de Brock Lesnar. Bon, Heyman ne regrette pas ses paroles, hein. Il dit que c'était son rôle, c'était son métier, c'était pour ça qu'il était payé de dire la vérité, de protéger le champion, et que c'est bien un très très grand champion, hein. Il dit même que Roman Reigns est le plus grand champion universel de tous les temps, mais qu'il avait quand même besoin d'être protégé. Paul Heyman a un peu de mal hein, quand même avec la situation, on sent qu'il est au bord des larmes, Kayla Braxton lui demande qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Paul Heyman se dit qu'il pourrait aller recommencer l'aventure, hein, aller chercher à NXT un petit talent, un petit poulain, mais que là, il a vraiment plus la force, il a l'air vraiment épuisé moralement, le pauvre Paul, et il admet à demi-mot que ça pourrait peut-être être enfin le moment de prendre sa retraite sur un coup pareil. Et d'ailleurs, là, il y a un ingé vidéo qui le prend au mot, puisque quelques dizaines de minutes plus tard dans le show, on verra un petit montage vidéo de la carrière de Paul Heyman à la ECW, tout ça, ce qu'il a fait avec Brock Lesnar, avec Roman Reigns. Donc, visiblement, on le prend au sérieux. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Est-ce que tu as été ému par Paul Heyman? Est-ce qu'il est sincère, d'après toi? Grande question vis-à-vis du passif de l'avocat.
Ah, sincère, je n'y crois pas une seule seconde. Par contre, dans sa capacité à donner de l'émotion, et à... là, on avait un segment vraiment sympa, original, c'était tout en feutré, tout calme, et puis voir le Paul Heyman mal rasé, là, Ça donnait vraiment quelque chose de spécial. Et en plus, avec son ami Kayla Braxton, donc pour une fois, il n'a pas sursauté, mais ça allait. Non, l'intro était vraiment sympa. Et puis, les questions qui se posent, le grand verre d'eau qu'il boit avant de répondre à la question, alors, qu'est-ce qu'on fait derrière? Qu'est-ce que vous allez faire que Kayla lui pose? Non, vraiment, vraiment super sympa. Et puis, tu en as un petit peu parlé après. Ils ont fait effectivement un paquet de vidéos récap de la carrière de Paul Heyman, de son arrivée, avec aussi quand il était en split avec McMahon, etc. J'ai trouvé les deux passages s'emboîtaient vraiment super bien. Et puis c'est tout cet opener tout en émotion, je l'ai trouvé vraiment sympa. Vraiment sympa.
Là, ça t'a tiré la larmichette.
Ah, j'irai pas jusque-là, mais c'était quand même bien sympa, vraiment.
Ouais, c'était assez chouette. J'ai bien aimé aussi. J'en profite au passage, ouais, pour les petites actus. Je ne sais pas si c'est lié, hein, mais c'est un peu tendu là en ce moment à la WWE. Là, ce show était enregistré, mais depuis, on a appris qu'il y a eu pas mal de cas de Covid. Je ne sais pas ce que ça pourrait augurer, mais Roman Reigns en tout cas n'était pas là ce soir, on le verra pas. Donc c'est un peu le seul segment. Paul Heyman a tenu la baraque pour nous rappeler cette histoire autour du titre universel, et il le fait toujours avec énormément de talent. Alors pour le moment,
Ouais.
moi j'arrive pas à y croire, et je suis quasiment, on va dire que la facilité, ça serait de le retrouver du côté de Brock Lesnar à nouveau, même si ça paraît peut-être trop évident, je ne sais pas. En tout cas, je doute qu'on le voie disparaître et qu'on le voie aller chercher un rookie à NXT. Mais c'était bien fait. Et puis en plus, comme tu as dit, les packages vidéo nous rappellent la gloire en fait de Paul Heyman, et que c'est quand même un personnage
Ah,
très
carrément.
important.
Il est là depuis un moment et enfin comme toi, je crois pas un seul instant, et puis j'ai même pas envie qu'il s'arrête en fait. Mais qu'il y ait tous ces questionnements et tout ça, ouais, le truc était sympa, vraiment sympa.
Sachant qu'il reste plus que un SmackDown, hein, avant Day One, on est quand même très très proche.
Oui.
Donc on saura tout ça très très bientôt. Allez, on continue, on va enfin passer sur le ring, hein, parce qu'on a un peu de catch ce soir. On a un match dont l'affiche est relativement importante, puisque c'est un match pour le championnat féminin de SmackDown. Charlotte Flair, la championne, qui défend son titre contre sa rivale du moment, Toni Storm. Donc un match que Charlotte va plutôt dominer, hein. Alors je n'ai pas les timings sous les yeux, je vais essayer de retrouver ça. Mais un match que Charlotte a plutôt dominé au début, d'ailleurs pas mal de temps, j'ai trouvé, à parler avec le public, à invectiver un peu son adversaire. Et puis après, on aura une série de 14 minutes 35, voilà. On aura une série de tentatives de roll-up, de petits paquets, de pins. Charlotte essaye un big boot qu'elle rate, elle encaissera une grosse German suplex de mémoire. Enfin, il y a quelques jolies prises, mais on finit au sol, on finit par cette tentative de tomber réciproque. Et Charlotte Flair va réussir à passer un compte de 3 victorieux sur son adversaire qui est vénère. Le public, ça on sait pas parce qu'il y a la bande son. Alors, mais par contre, je t'interroge, Géliel, parce que visiblement, d'après les résumés que je vois, je suis le seul à avoir eu l'impression qu'en fait, elles étaient toutes les deux épaules rivées au sol, puisque Charlotte est un peu est sur le dos au moment où elle tient les jambes de son adversaire. Donc, je ne sais pas si on va jouer là-dessus sur la fin. Moi, j'avais plutôt l'impression qu'on a assisté à un draw, mais visiblement, officiellement, c'est bien Charlotte qui a gagné.
J'ai
T'as pas fait gaffe au
pas, j'ai pas fait gaffe à ce détail-là. Moi, il m'avait semblé effectivement qu'elle avait gagné, mais alors ça, enfin, des fois, ça se joue à tellement pas grand-chose que je me dis que c'était plutôt écrit que voilà que Charlotte devait prendre la victoire, ce qui était quand même sur un titre majeur comme ça en weekly, il y avait quand même peu de chance, hein, quand même. Et du coup, c'est ce qui m'a un peu embêté parce que. J'ai finalement jamais cru en fait. Alors ça a bien bataillé. Elles sont beaucoup parlé entre elles. Je te rejoins. Charlotte a beaucoup harangué le public. Elle a beaucoup allé chercher effectivement le public. Il y a eu quelques trucs un peu botchés sur certains passages. C'était un peu dommage. Alors pas forcément de Charlotte, mais plutôt de Toni Storm. Je la trouve encore un peu juste, Toni Storm, dans ses émotions visuelles. Elle a toujours une espèce de la même tête quand elle a les dents serrées et qu'on voit ses dents là, on n'arrive pas à savoir si elle rigole, si elle est énervée ou si elle pleure. Et du coup, ça fait un peu tout. Enfin, pour moi, ça fait un peu tout. J'ai du mal à accrocher à la rivalité. Je la trouve tellement loin de Charlotte que voilà, pour moi, c'est peu crédible. Et puis en plus en weekly. Donc du coup, j'ai pas hyper accroché au match. J'ai trouvé que Charlotte en faisait beaucoup pour finalement pas grand-chose parce qu'il y avait peu d'enjeux de mon point de vue. Voilà, j'ai pas super accroché au match. Voilà.
Ouais, je partage globalement ton point de vue. Moi, je trouve qu'il y a pas, ouais, il y a eu beaucoup de sessions. En début, en fin de match, ça s'est un peu plus accéléré, mais c'était pas très fluide. Et c'est vrai qu'on sentait les filles qui essayaient d'exécuter assez sagement leur chorégraphie. Et
Le script, ouais.
voilà. Et j'ai entendu encore une fois, parce que j'ai écouté un peu les podcasts des camarades, même si je n'ai pas eu le temps de participer. Je crois que c'est Papy qui disait que Liv Morgan lui faisait penser à une sous Alexa Bliss. Moi, Toni Storm, alors elle me fait beaucoup penser à Lacey Evans en fait, et j'ai encore l'impression d'avoir cette même histoire de la Charlotte wannabe, parce qu'elles sont toujours blondes, elles sont un peu costauds comme ça, et finalement elles sont pas au niveau, donc j'ai pas beaucoup cru non plus. Je me suis demandé un court instant, parce que des fois les soirs de Noël ou de Nouvel An, ils en profitent pour faire un petit changement de titre, et puis bon, Charlotte, on sait jamais trop en fait avec elle si quand le Rumble ou WrestleMania arrive, s'ils vont la faire championne, challengeuse, s'ils vont l'envoyer sur un truc de gala.
Ouais.
Mais bon, ça aurait pas été très crédible et ça aurait pas été très bénéfique, je pense, non plus. Donc la logique est respectée.
Oui.
Moi j'ai ce questionnement sur le final, mais a priori je suis le seul, donc a priori tu serais partant toi pour qu'on en arrête là dans cette feud alors.
Bah, ah oui, alors ça, dans la feud, oui. Et puis, je pense que Toni Storm, faut qu'elle aille attaquer quelque chose. Faut qu'elle aille chercher choper des victoires un peu clean sur des trucs, sur de la mid-card haute, tu vois. Je sais pas, alors pas forcément de la low card, mais je sais pas moi, de la Shayna Baszler ou aller taper pourquoi pas contre Rhea Ripley ou des choses un peu qui, voilà, qui commenceraient à être un petit peu, mais je pense que c'est trop Charlotte Flair pour elle tout de suite, voilà.
Ouais, bah c'est une tentative qu'ils font des fois là de balancer direct les rookies en challenger. Ça arrive
Ouais.
souvent hein, au final, mais ça c'est pas forcément bénéfique. Ouais, je pense que là, et on n'a pas malheureusement pas ce jugement possible avec le son du public, mais je suis pas si elle est dans une mood si dans une popularité si énorme, Toni Storm,
Ouais,
pour faire un feel good moment. Ouais.
puis tu vois, à la fin, là, elle avait perdu, on l'a vu, Toni Storm, on se demandait si elle pleurait, si, enfin, c'était un peu bizarre. Enfin, c'était, enfin, ok, c'est la vraie méchante, c'est Charlotte Flair, mais ah, quand même, tu vas voler, tu vas chercher le titre de la méchante, tu perds, t'as donné envie d'y retourner, mais t'as pas envie de pleurer, quoi. Enfin, voilà, du coup, le tout était un peu... Merdique, voilà,
Oh,
pour
voilà.
résumer.
Et les mots sont forts, les mots sont lâchés. Et bah écoute, on va directement passer à la suite, au segment suivant. Alors, on va arriver sur l'énorme morceau de ce soir. Ça, c'est un spécial Noël. Donc, c'était une place pour le titre intercontinental, une place de challenger. Hein, le titre intercontinental n'est pas en jeu. D'ailleurs, Rick Boogs et Shinsuke Nakamura, le champion, ont débarqué et passé leur soirée sur le bord du ring pour regarder ce combat. Donc c'est un gauntlet match de Noël, mais à 12 participants. Donc vous connaissez le concept, un gauntlet match, il y en a deux qui commencent, dès qu'il y en a un qui perd, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Voilà, ils vont être 12. Il faut être quand même très optimiste pour commencer là ce soir. Et eh bien on va commencer à fête avec Angel Garza, qui s'appelle juste Angel maintenant, j'ai découvert au passage, qui va affronter Mansour. Donc deux plutôt low-carders, effectivement. Bon, j'étais assez curieux de voir lequel avait plutôt les faveurs des bookers. Et finalement, plutôt à ma surprise, c'est Angel Garza qui va placer son Wing Clipper, là, le finisher que Papy adore, sur Mansour au bout de même pas 2 minutes. Donc c'est assez vite exécuté. Le Latino va rester dans le game, mais il sera rejoint très vite par Eric des Viking Riders. Donc là, on a affaire à un mec un peu plus costaud. D'ailleurs, il va lui faire une sorte de body slam à l'extérieur, là, sur le sol. Mais le castagneur scandinave va lui aussi se faire surprendre par le Wing Clipper, comme quoi c'est un finisseur destructeur. Et Angel Garza va passer à 2-0. Mais ça va être assez vite la fin pour lui, puisque Shanky arrive. Ouais, on n'a toujours pas son cousin Arrow, là. Vire, mais on
Vin,
a.
vire, oui,
Ouais,
vire.
voilà. On a Shanky à SmackDown. Et Shanky, je sais même plus ce qu'il fait d'un gros slam, peut-être. En tout cas, il élimine Angel Garza assez vite. On voit débarquer Ivar, le deuxième membre des Viking Riders, qui va réussir à se débarrasser de l'Indien en lui faisant un splash depuis la deuxième corde, alors pas très bien exécuté, j'ai trouvé ça. Enfin, on en reparlera après, mais l'Indien est pas un superstar du selling, je dirais. Et là-dessus va arriver Sheamus, notre guerrier celte. Alors là, on s'attaque à un gros morceau. Sheamus contre Ivar. Ça, c'est plutôt une configuration de castagneur qu'on aime bien voir. Et ça va durer tout de même 6 minutes cet affrontement. Sheamus qui tente un peu tout ce qu'il a. Face à lui, il y a de la résistance. Bon, il y a Ridge Holland hein, qui est venu sur les abords du ring aider Sheamus pour déconcentrer un peu son adversaire. Et il va y parvenir, ce qui va faire que Sheamus va réussir à placer son gros ben, je sais plus,
Baptique.
enfin, broad kick, voilà, je cherchais le nom, un gros broad kick dans la tronche d'Ivar, et Sheamus passe à l'étape suivante. L'étape suivante, ben, c'est le pauvre Drew Gulak qui va durer très exactement 4 ou 5 secondes, prendre ce broad kick d'entrée
Et tu
et
comptes
disputer.
l'entrée en plus, non?
Ouais, je le pense, c'est ça. Donc voilà, pauvre Drew Gulak, encore une fois, acte de présence, à peine. Cesaro arrive ensuite, je crois qu'on est 1, 2, 3, 4, 5, ouais, on est à peu près à la moitié là. Cesaro arrive, alors là on a un peu plus de d'affrontement. Hein. Cesaro chez Mus, c'est un peu la fête du moment avec Ridge Holland au milieu. Cesaro il est tout bandé, alors je sais pas quelle proportion de sa carrière Cesaro aura passé avec des bandages sur le corps. J'ai l'impression que c'est tout le temps. Et là il a des bandages sur les côtes, hein. Il s'est fait mal aux côtes à cause des Européens. À cause de l'Irlandais, mais il fait tout ce qu'il peut, hein, Cesaro, il va être valeureux, il va le faire tourner son adversaire, pas très longtemps, parce qu'il a mal. On ne sait pas trop si le public prend ou pas, encore une fois, c'est assez délicat, mais Cesaro est proche de la victoire. Malheureusement, Ridge Holland viendra le distraire en montant sur le ring, qui permettra à Sheamus de lui faire un broad kick. Et donc, bah, c'est toujours pas réussi pour le Suisse, qui décidément là est dans une feue de handicap. Est-ce qu'il ira chercher quelqu'un de son côté? Ça, on ne sait pas encore. Toujours est-il que Sheamus continue dans ce match, il en est à 3 éliminés. Ricochet arrive. On pourrait se dire que pour le grand Sheamus, c'est facile là aussi. Mais Ricochet ne va pas vivre la même expérience que Drew Gulak. Hein. Non, non, il va même tenir presque 10 minutes sur le ring. Il va manger cher. Hein. Il va manger les 10 coups de poing sur le torse, là, dans les cornes. Mais il va
C'est
avoir
claque.
une. Ouais, 10 claques, il va bien répondre. Hein. Il y a une prise assez spectaculaire là où il saute de l'extérieur du ring, il retombe bah, sur les épaules en fait de Sheamus. Ça virevolte dans tous les sens. Bon, il doit bien aimer Sheamus hein, parce que quand il était champion US, il aimait bien affronter les petits gabarits. Et au final, Ridge Holland essaye à nouveau de désorienter Ricochet. Sauf que Cesaro revient du Diable Vauvert et réattaque Ridge Holland. Et là, c'est Sheamus en fait qui perd pied au passage. Et qui va perdre, à qui Ricochet va réussir à placer un roll-up. Donc, eh ben, au revoir Sheamus. Grosse prestation pour cette rencontre, mais ça ne sera pas pour lui le title shot. Il nous reste plus grand monde. Humberto Carrillo arrive à toute vitesse. En plus, Sheamus a donné un coup de genou à Ricochet. Donc, le Latino pense avoir opération facile, mais il va se faire surprendre très rapidement par Ricochet, qui va lui placer son recoil. Donc, Ricochet avance. Et se retrouve face à Jinder Mahal qui débarque, le deuxième membre de la team des Indiens, et Jinder Mahal qui fera une toute petite prestation puisqu'il va lui aussi bêtement se faire contrer dans un roll-up, hein, moins de 30 secondes sur le ring pour Jinder Mahal, donc Ricochet a éliminé trois adversaires, comme Sheamus, et il se retrouve en finale, puisque ça y est, c'est enfin la fin de cet interminable Gauntlet match, et c'est Sami Zayn qui débarque. Et Sami Zayn contre Ricochet, ça fait quand même une affiche pas dégueu, hein, qui va durer presque 10 minutes là aussi, avec des jolis enchaînements pardon, de tous côtés. Ricochet qui va virevolter un peu dans tous les sens, Sami Zayn qui va plusieurs fois lui envoyer en souplex dans le coin du ring. Ricochet tente un shooting star press, mais Sami Zayn lui a relevé les genoux, et ça va être le segment final, puisqu'il va pouvoir ensuite placer son Helluva Kick. Et Sami Zayn, ce coup-ci, pas de conspiration, c'est gagné. Il toise un peu son futur adversaire, donc nous savons désormais que nous aurons très bientôt Sami Zayn contre Nakamura pour le titre intercontinental. Voilà, Géliel, bon, c'était long, est-ce que c'était bon quand même? Voilà, quels sont sur ce segment qui a duré quand même 42 minutes, donc plus de la moitié du show. Quels sont tes points positifs, tes points négatifs, est-ce que ça t'a plu ou pas?
Alors moi j'ai vraiment adoré ce moment. Déjà pas mal d'affrontements différents, pas mal de styles différents. Ce que j'ai aimé, c'est que à plusieurs reprises, je me suis dit, bah, c'est lui qui va gagner. Et en fait, c'était pas ça. Et ça, j'aime bien quand il y a des fausses pistes ou quand ça part à gauche à droite, c'est que voilà, c'est que c'est bien écrit et c'est que ça se passe bien. J'ai adoré la première montée en puissance de Sheamus qui cartonne un peu tout ce qui bouge. L'affrontement entre Sheamus et Ricochet, je l'ai trouvé vraiment, vraiment bon, quoi. Il y avait une alchimie entre les deux, et c'est ce que tu disais, quoi. Sheamus compte du petit gabarit, il est hyper bon pour mettre de la bonne grosse mandale qui claque, mais il s'est fait embringuer aussi dans des bons moves, dans des Hurricane Rana, dans des grands moonsaults et compagnie de Ricochet, et ça a rendu, enfin moi je trouve que ça rendait super bien, quoi. Tu as effectivement parlé d'un saut à l'extérieur là où on ne sait pas si c'est botché, mais le truc était tellement énorme où il y a en fait il y a Ricochet qui retombe quasiment sur la tête de ce pauvre Sheamus. On voit qu'il est un mètre en retard en fait Sheamus, donc il se rapproche à toute vitesse pour aller chercher Ricochet pour éviter qu'il se croûte, et en fait il lui tombe dessus. Mais enfin moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment super sympa, la prestation de Ricochet qui a compensé. Alors après il y avait des, il a ajouté des petits moves en mode coup de boxeur, coup de poing de boxeur un peu stylé. Ça, je trouve que ça rendait pas mal, et je trouve que ça compensait un peu le déficit physique, parce que quand il y a un petit léger qui met des coups de poing, on va pas ramener ça à ce pauvre Shane McMahon et ses ridicules coups de poing, mais il y a toujours le risque. Et je trouve que vu qu'ils étaient quand même bien placés, enfin bien réalisés techniquement, je trouve que ça a donné un peu le change par rapport au déficit physique que peut avoir un Ricochet par rapport à un Sheamus. Et donc il avait enchaîné ça pour donner quand même un peu de change sur la partie puissance. Et puis à côté de ça, je l'ai trouvé virevoltant. Il a fait des trucs dans tous les sens. Enfin, moi j'ai adoré ce moment, quoi. Et puis après, donc il gagne. Donc moi j'étais debout, hein, parce que j'aime beaucoup, comme tonton, j'aime beaucoup Ricochet. Il mérite ce type, quoi, franchement. Et puis il va chercher la foule. Et puis il scelle de fou, enfin vraiment bien. Et derrière, les deux autres affrontements avant qu'il y ait Sami Zayn, pareil, hein, alors on sent qu'il est quand même déjà un peu plus fatigué. Néanmoins, il y a quand même un vrai affrontement contre Sami Zayn. Et puis bon, bah, Sami Zayn qui gagne à la fin, alors que moi j'étais parti sur Sheamus, puis après j'étais parti sur Ricochet, puis c'est finalement Sami Zayn qui gagne. Moi, j'aurais aimé que Ricochet gagne, très clairement, parce que un intercontinental, bah, je le verrais bien. Après, Sami Zayn, il attend une ceinture depuis un petit moment, pourquoi pas. Mais moi, ça m'a mis beaucoup d'espoir pour Ricochet, qui peut faire des trucs pendant des. Enfin, il a tenu quoi? 25 minutes au final? Et de
Oh oui.
fort belles factures, je trouve. Pas ridicule, donc plein d'espoir pour Ricochet. Et puis globalement, sur ce Gauntlet match, je te dis, j'ai pensé trois fois avoir trouvé le vainqueur, et trois fois ça a changé, donc j'ai été très entertainé, comme on dit. Voilà.
Bah, très bien, écoute, moi aussi j'ai passé un bon moment. Alors c'est vrai que 12 mecs, ça fait beaucoup. Mais j'ai trouvé qu'ils ont bien su le scénariser. Ça commence, voilà, gentiment. Alors bon, bah. Angel Garza, qui est plutôt un mec que j'aime bien, qui a eu un petit moment, même s'il s'est vite oublié, mais qui aura sorti deux éliminations. Après, la grosse session Sheamus, effectivement très impressionnant. Sheamus, on le dit jamais assez, mais qui aura été un catcheur solide et fidèle, toujours au poste sur cette belle année 2021, qui mérite de grandes choses pour la suite. Un Cesaro, dont on fait toujours un peu attention, en tout cas pour moi c'est un de mes favoris, mais qui perd assez vite, qui fait pas une grosse prestation en termes d'élimination, mais qui est un personnage important de ce gros segment. Et Ricochet, effectivement, très bien, bonne surprise, qui mérite largement, qui surnage un peu au-dessus de certains des autres jobbers qui sont plutôt dans sa catégorie, hein, ces derniers temps,
Oui, c'est ça.
malheureusement,
Il est
on l'a
au-dessus. Moi,
plus.
je le trouve au-dessus, oui.
Ouais, il est au-dessus et il a bien prouvé, et on espère de bonnes choses pour la suite. Au final, moi je suis aussi un grand fan évidemment de Sami Zayn et de tout ce qu'il a pu faire ces derniers temps avec tout ce personnage qu'il a créé. Donc moi ça me dit bien, surtout que je le vois bien, hein, Sami Zayn aller chercher. Bon, Ricochet l'aurait pu aussi, mais je pense que Nakamura, tout le monde fait l'unanimité pour dire qu'il est temps de lui prendre cette ceinture, qu'il est temps qu'il soit vraiment sur la scène tag team
Ah
avec
ouais.
Rick Boogs. Donc ça serait pas mal, Sami Zayn champion intercontinental. Du coup, c'était un beau segment, ça a permis de voir beaucoup de monde. Alors bon, on aurait peut-être pu, voilà, je sais pas si c'est toujours la grande question que nous avons dans nos podcasts. Est-ce que quand on s'appelle Drogoula, qu'il vaut mieux passer 5 secondes ou pas passer du tout? Bon, ça a fait du corps à l'événement et ça a donné un gros match, quoi. On avait bien
Ouais.
une vraie belle histoire, qui montrait qu'il y avait de l'enjeu. On a vu un peu tout le, ouais, tout le roster, hein, on peut dire. Donc c'est pas plus mal. Il vaut mieux qu'il soit là que derrière un titre 24-7 ou quoi. Donc c'était plutôt réussi. Enfin, ça, je trouve ce côté cadeau de Noël réussissait bien. Là, on voyait plein de monde et on a vu plein de trucs.
Pareil.
Voilà. Et ceci étant dit, on arrive assez vite, hein, à un autre main event du soir, puisque on vient déjà de passer 45 minutes là à ce combat-là. Donc il y aura la petite vidéo sur Paul Heyman qui est diffusée au passage. Il y a Xia Ali aussi qui fait un petit segment en coulisses, qui justement est plutôt dans sa création, elle aussi, de son personnage de vengeresse, de protectrice. Et nous arrivons au match final de la soirée, qui est un match, un street fight de Noël, hein, officiellement un miracle de la 34e rue de Noël. Connaissez le principe à la WWE, hein, tout autour du ring, il y a des sapins, il y a des cadeaux, il y a de la bouffe, etc. Et donc c'est un tag team match à 6 qui sera le match de Noël. Un match dans lequel Madcap Moss et avec les Usos affrontera le New Day, Xavier Woods et Kofi Kingston, avec Drew McIntyre. Bon, bien sûr, nous avons Happy Corbin qui est du côté des méchants. Là, pour le coup, on a un match alors très précisément qui dure 12 minutes 30. Et qui est à l'image de tout ce qui se fait à la WWE pour Noël. Donc évidemment, les New Day, les Usos vont s'envoyer la tronche dans les sapins de Noël, dans les cadeaux. Il y a même un moment où c'est un spectateur qui va donner un cadeau à l'un des Usos pour taper sur Xavier Woods, si ma mémoire est bonne. Voilà, ça utilise donc Corbin. Au bout d'un moment, se rend compte que puisque c'est un street fight, il a le droit d'intervenir. Il va taper avec un kendo stick déguisé en sucre d'orge là, sur Drew McIntyre, où on aura un petit peu toute cette fête. Baron Corbin, enfin pardon, Happy Corbin et Madcap Moss vont finir, les pauvres, complètement dégoulinants parce qu'on leur a versé sur la tronche. Alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est du lait de poule là, cette espèce de boisson.
Ouais, un peu jaunâtre là.
Ouais,
Je sais pas trop ce que c'est, ouais.
bien poisseuse, bien dégueu. Voilà, on gaspille de la bouffe, évidemment. Les New Day sont tout contents et puis Drew McIntyre va ramener Madcap Moss sur le ring, pardon, pour lui sortir un Claymore et c'est fini, c'est gagné, les gentils l'ont remporté. Bon, là on était dans quelque chose, on va dire, de plus habituel. Est-ce que ça t'a quand même soulevé un sourire et des applaudissements, ou est-ce que c'est le genre de segment un peu trop habituel ou un peu trop convenu pour que ça t'enthousiasme?
Ben écoute, moi j'ai passé encore, faut croire que j'étais dans des dispositions assez positives parce que j'ai encore passé un bon moment. J'ai bien aimé l'ambiance en fait qui émanait de tout ça. Alors les New Days ont toujours la banane, donc ça a pas changé. Mais par contre, j'ai vu plein de fois les Ouzo qui étaient morts de rire après certaines prises ou après certains trucs. Donc il y avait une ambiance très sympa. Drew McIntyre était aussi dans un état d'esprit. On a vu, il y avait un tout petit segment là pendant le SmackDown où il était avec les New Day où voilà, on sentait qu'ils allaient s'amuser quoi. Il y avait que Madcap Moss qui était quand même hyper sérieux, hyper corporate dans son catch, donc un petit peu décalé j'ai trouvé. Mais sinon ouais, moi j'ai bien aimé. Alors il y avait la bouffe hein, comme d'habitude, jeté par terre. Il y avait les cookies là qui avec le saut depuis la troisième corde à l'extérieur de Kofi Kingston avec les plateaux de cookies sur les Ouzo. Non, j'ai trouvé ça vraiment vraiment très sympa. Et puis la fin, et puis même à des moments il y avait Madcap Moss et puis Drew McIntyre in ring, mais il y avait les quatre autres qui faisaient les cons dehors ringside et donc du coup il y a plus personne qui suivait. Enfin il y en avait de partout. Ça giclait de partout, ça sautait de partout. Moi, j'ai bien aimé. En plus, les gentils gagnent à la fin, donc que dire de plus? Après, il y a toute la partie où ils ont jeté des paquets dans la foule. On voyait aussi à un moment, il y a une image à la toute fin où il y a Drew McIntyre qui est mort de rire. Et puis, enfin, voilà, je trouve que le moment était sympa. Tout le monde a participé. Je ne sais pas si tu as vu, à un moment, il y a Madcap Moss qui se prend à la toute fin après le match, qui se prend une espèce de gros colis argenté dans la tête et qui tombe comme une merde, comme s'il était évanoui face contre terre. Et j'ai trouvé ça pareil, très très drôle, parce qu'on se doute bien que c'est un machin en polystyrène. Mais je trouve qu'il l'a bien vendu, c'était tout à fait dans l'esprit. J'ai trouvé ça très très. Pas très drôle. Donc un bon moment et autant je suis pas fan d'habitude du gâchage de bouffe comme ils ont l'habitude de le faire, autant là bah voilà, ça m'a moins dérangé que d'habitude et puis que je trouve que ça c'était un peu plus fluide que d'habitude également. moins forcé peut-être, je sais pas. Et du coup, le segment m'a bien plu également. Voilà.
Ouais, bah, je vais partager ton enthousiasme, sans dire que c'était un grand match de catch, c'était exactement ce qu'on a l'habitude de voir pour Noël, et c'était plutôt réussi. Moi, ça m'a rappelé des moments aussi avec John Cena ou Alberto Del Rio ou le Miz, enfin bref, voilà, c'est un peu le moment qui ressemble, où on devient presque dans le house show, quoi, dans la farce collective, où les mecs ont l'air de s'amuser, de dérouler leur truc, où il n'y a même plus vraiment d'alignement parce qu'on encourage les mecs qui mettent des cadeaux sur la gueule des autres. Là, les Usos étaient en feu. Et ça fait rien avancer, mais on sait d'avance quand on lance une review ou un truc de Noël du soir du 24 décembre qu'il va pas se passer grand-chose. Donc au moins, on est resté dans le divertissement pur et dur. Drew McIntyre, en plus, quand même, ça lui fait du bien, hein, je pense, d'être en main event et d'être assez populaire parce que ces dernières semaines ont été un peu plus délicates. Enfin voilà, il était un peu en deçà, il était en reconstruction, il faisait un peu attention. Moi, j'étais pas très fan du McIntyre là qui sort et gigote tout le temps avec sa grosse épée, mais là on a plutôt un moment où il a montré qu'il était rigolo aussi. Donc
Oui, c'est ça. Je pense que ça lui fait du bien aussi de pas être toujours les dents serrées, énervées avec une mission, avec quelqu'un à détruire, à venger ou choses comme ça. Le truc où juste il rigole avec les New Day et puis ça déconne, j'ai trouvé ça vachement sympa, quoi.
Bah, c'est ainsi que s'est conclu donc ce Friday Night SmackDown avec une belle distribution, comme tu disais, de cadeaux, de t-shirts en plus dans la foule à la fin. Donc le public devait être ravi sur cet événement. Bon, ça restera un SmackDown de Noël, donc bah voilà, trois matchs, surtout un qui a pris une majeure partie du show, hein, un gauntlet match un peu inhabituel. On était à côté de Chicago, hein, on était à Rosemont dans l'Illinois. Et c'était bien évidemment un événement enregistré, donc tous ces gens-là vont avoir un peu de repos pendant les fêtes, et on verra assez vite, bah là, dès lundi, Monday Night Raw qui arrive, si on a des conséquences, des suites du Covid ou autre, si on a des plans qui sont changés, parce que mine de rien, Day One arrive enfin à vitesse grand V après l'avoir longtemps attendu, ce show, après avoir eu une très longue road pour ce pay-per-view. Voilà, on commence à peu près à avoir les affiches. Je ne sais pas d'ailleurs si le match de Sami Zayn et Nakamura est prévu pour Day One ou si c'est un
Si.
title shot. Si, c'est sûr, ouais.
Ouais, il va être à Day One. J'ai lu que Sami Zayn avait gagné un match pour Day One, donc j'imagine que c'est celui-ci, quoi.
Ok, très bien. Bah, okay. On a une affiche de plus sur la carte de Day One. Et ben, bah, écoute, là-dessus, on va pouvoir finir nous aussi bien cette review, Géliel, de Noël. Donc, est-ce que ton top, ton flop et ta note, ton mot de la fin sont aussi positifs que tu l'as été dans cette analyse? Dis-moi tout.
Eh ben écoute, faut quand même que je trouve un flop, donc je vais le donner à Tony Storm. Alors, soit au booking, soit à Tony Storm, mais je la trouve vraiment trop juste. Alors, soit le booking trop ambitieux en se disant que peut-être Tony Storm versus Charlotte Flair, ça allait le faire. Moi, je trouve pas, et je trouve que Tony Storm, il en manque trop pour que ce soit équitable et qu'on ait l'impression qu'elle ait ses chances, sachant que ça s'est construit autour de tarte à la crème dans la face, hein, aussi la rivalité. Donc bon, voilà. Donc voilà, c'est mon flop. Je suis pas convaincu encore. C'est peut-être un peu tôt. Et puis alors mon top, il va aller soit au Gauntlet, soit à Ricochet. Je vais aller au Gauntlet parce que le segment complet était vraiment top. Et avec un petit bonus pour Ricochet que j'ai vraiment trouvé sautillant, virevoltant et qui mériterait d'en avoir un petit peu plus. Et alors attention, pour la fin d'année, je vais péter et je vais mettre un 4 à ce SmackDown qui m'a bien entertainé et qui m'a fait marrer à la fin. Voilà, donc on ne peut pas faire beaucoup mieux.
Eh ben écoute, super note effectivement pour ce show. En même temps, c'est sûr que quand le top représente la moitié du spectacle, c'est que c'est plutôt positif. Et moi, je vais manquer d'originalité, hein, parce que c'est vrai que ça a été un show bah, très très rapide, enfin très court à visionner avec peu de segments. Et le flop, la partie qui m'a moins intéressé clairement, c'est le match féminin, hein, donc on va mettre malheureusement le flop sur les filles. Et le top, bah écoute. Moi, je vais le mettre à Sheamus, alors, puisque tu as plutôt mis le côté Ricochet. Moi, je vais mettre le top sur notre ami Rouquin, Sheamus, qui a fait aussi une belle performance. Et je trouve que globalement, bah, tout le monde, en période de fête de Noël, on a les repas, les cadeaux, on n'a pas forcément énormément de temps à consacrer à du visionnage de catch. Donc, je pense qu'ils ont fait exactement le bon choix. Là, c'était facile à voir, c'était très plaisant, c'était vite regardé. Donc, Bah, je vais peut-être pas faire péter le 4 parce que ça serait vraiment pour moi un très gros show avec beaucoup de qualité et de surprise, mais je vais mettre, allez, on va mettre un 3,75 quand même. Et on a eu une belle partition. Et en plus, voilà, ça tombait pas trop mal cette année. Enfin, ça dépend des années, mais voilà, on a un pay-per-view qui était presque entièrement booké, des gros événements qui ont eu lieu précédemment. On pouvait se permettre, un peu avant Day One, là, de ralentir un peu et de profiter des fêtes. Donc c'était un très bon choix scénaristique de nous avoir fait cette soirée. Voilà. Félicitations à la WWE.
Tout
Joli
à fait.
cadeau de Noël. Voilà, bah écoute, Géliel, maintenant, ça y est, hein, les fêtes sont finies, la dinde est digérée. Donc on va pouvoir repartir vers Monday Night Raw et SmackDown, et puis ce gros pay-per-view de début d'année qui nous attend. Et puis bah bientôt, on va devoir nous aussi faire un peu notre review de l'année. Hein. Ketchup est en train de travailler à César Ward. Est-ce que
Ah oui.
tu as tes avis définitifs là?
Alors, j'ai déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'items qui ont été identifiés. Je ne suis pas encore complètement sûr de mes favoris, du classement, en fait, pour être clair sur tous les points. Mais ce sera prêt pour la grosse review de l'année, la grosse analyse de l'année. Pas de problème.
Super, bah écoutez, peuple de ketchup, en attendant, n'hésitez pas dans les commentaires, hein, vous pouvez nous dire, vous, vos tops, vos flops de l'année, alors les rubriques. Ah, vous les connaissez, bon, le meilleur catcheur, la meilleure catcheuse, les équipes, les matchs, les pay-per-view, enfin bref, plein plein de bonnes choses qu'on va analyser tous ensemble. Hein.
Oui, tout à fait. Les feux également. Bref, comment on a vécu cette année 2021 qui sortait du Covid, où on a retrouvé le public, on a retrouvé les salles pleines avec joie quand même, puisque tout de suite, hein, comme tu l'as dit, hein, dès qu'on a à nouveau un peu de boîte à son, ça fait grincer tout de suite. Donc voilà, où on était finalement très content de revoir un petit peu du public. Et voir un peu comment on analyse et comment vous, avec vos commentaires également, vous analysez cette année 2021 de Catchesque.
Tout à fait. Bon, pour tout ça, vous savez, hein, où nous trouver, toujours l'autopromo, mais on est sur Spotify, Deezer, Google Podcast, voilà, Catch Up, les podcasts qui transpirent le catch, sur Facebook, Twitter, on a un Twitter actif, un Instagram un petit peu moins, mais c'est Catch Up CDC. Et puis, ben, sur le Discord de Catch Up, vous pouvez venir nous raconter tout ça. Géliel, ce fut un plaisir de faire cette review de mon retour avec toi. Donc, je te remercie de ta présence et je te souhaite une belle fin d'année maintenant.
Eh
Nous
ben,
ne nous
merci
recroiserons
Raphaël.
pas.
Oui, ça risque d'être compliqué, mais merci quand même Raphaël pour ce hosting et puis très content d'avoir fait cette review avec toi d'un bon SmackDown. Donc ça fait toujours plaisir de s'enthousiasmer, même si parfois on est un peu sévère avec la WWE quand ils savent nous servir des trucs bah, peut-être plus simples, plus dans l'air, enfin voilà, du moment. Eh ben, on arrive à apprécier sans modération. Donc voilà, très content de la review et du SmackDown.
Eh bien parfait. Allez, peuple de catch-up, à très bientôt. N'hésitez pas à nous donner vos tops, vos flops, vos notes, à interagir avec nous et on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Alors, ciao à tous et bonne fin d'année.
Salut à tous, bonne fin d'année.
En espérant que Paul Heyman quand même passe une bonne fin d'année aussi.
Et qu'il ait pas sa lettre de démission sur le bureau en entrant lundi.
Ah, le pauvre.